Alors, étant donné ma position, évidemment, je ne vais pas remercier l'ENSIB et la BPI de m'avoir invité à faire cette présentation, mais j'en profite tout de même pour remercier le service coopération de la BPI, le service animation, en particulier les régisseurs, et le service communication de l'ENSIB en la personne de Christelle Petit. Voilà, comme le disait Françoise. Donc moi, je choisis un point d'entrée un peu spécifique, un peu particulier pour vous parler de cette question de l'image des bibliothèques en le faisant à partir des résultats d'une enquête qui a été consacrée à la BPI l'an dernier par une stagiaire en sociologie qui était venue presque 4 mois dans notre service pour réaliser une enquête qualitative sur les lycéens qui fréquentent la BPI pour venir réviser le baccalauréat, donc massivement dans les 2 derniers mois qui précèdent le bac. Voilà, donc c'est un point d'entrée un peu spécifique, mais on va voir quand même qui peut nous permettre de commencer à essayer de monter un petit peu en généralité. Alors justement, pour essayer de valider un peu ces généralités qui peuvent surgir à partir d'un terrain très spécifique à la BPI, qui est tout de même une bibliothèque un peu particulière, une bibliothèque nationale de consultation sur place, au cœur d'un grand établissement culturel parisien très, très central. Donc j'ai choisi un certain nombre d'indicateurs qui sont tirés de la toute dernière enquête L'enfance des loisirs, réalisée par Sylvie Octobre, Christine Détré, Pierre Merclé, Nathalie Berthomier, pour le ministère de la Culture, hein, donc une enquête du DEPS qui est sortie en 2010, hein, dont vous pouvez vous procurer les résultats, à la fois en ligne ou en achetant la synthèse, et qui est une enquête un peu spécifique dans la mesure où il s'agit d'une enquête longitudinale qui porte sur 4000 enfants âgés de 11 à 17 ans qui ont été interrogés régulièrement tous les 2 ans. À plusieurs reprises. Hein. Donc, il s'agit des mêmes enfants que l'on a suivis à mesure qu'ils avançaient en âge. Et donc, on voit du coup un certain nombre de pratiques qui évoluent, qui se cristallisent, hein, qui augmentent ou qui, au contraire, sont à la baisse. Parmi les indicateurs que j'ai choisi de mettre en avant, hein, ce premier indicateur qui montre que, donc, en 2002, à 11 ans, quand les questionnaires sont passés, on s'aperçoit que 45% des enfants vont à la bibliothèque municipale au moins une fois par mois. Donc c'est presque un enfant sur deux âgé de 11 ans qui déclare aller à la bibliothèque municipale au moins une fois par mois, ce qui sous-entend que certains y vont beaucoup plus. À 17 ans, en bout de course, les mêmes, hein, alors qu'ils ont pris un peu de bouteille, ne sont plus que 21,5% à déclarer fréquenter la bibliothèque municipale. Ça ne vous surprendra pas, on connaît cet effet d'érosion et d'évaporation, hein, qui est déjà bien classique. Quand on les questionne, là, quand on questionne les fréquentants, donc ceux qui déclarent être allés à la bibliothèque, sur les activités qu'ils pratiquent dans ces établissements, on voit que la question de l'activité qui consiste à lire sur place ou emprunter des livres ou des magazines baisse sensiblement, hein, puisqu'on passe de 92% à 11 ans à 73% à 17 ans, que d'autres pratiques augmente sensiblement, hein, le fait d'écouter par exemple de la musique sur place ou d'emprunter des CD, le fait de regarder sur place ou d'emprunter des DVD ou des vidéos, et également le fait de rencontrer des copains. Je vous laisse consulter les chiffres, vous pourrez les retrouver en ligne dans les résultats de l'étude, où vous pourrez vous procurer ce tableau puisqu'il sera mis en ligne par la BPI. Ce qui est très intéressant dans cette affaire aussi, c'est de voir augmenter considérablement pour l'ensemble de ces enfants, sous-entendu quels que soient les sites, quelles que soient les agglomérations, hein, puisque l'enquête est une enquête France entière, hein, qui a été réalisée via les panels de l'éducation nationale. On passe de 8,5% des enfants qui déclarent venir faire leurs devoirs en 2002 en bibliothèque municipale à pas moins de 49% des enfants ou des adolescents, des grands adolescents déjà, hein, qui en 2008 déclarent fréquenter une bibliothèque pour venir y faire leurs devoirs. Donc on est déjà sur 1 sur 2. Ce qui me conforte dans l'idée que les résultats que je vais vous présenter à propos des lycéens qui s'approprient massivement la BPI pour les révisions du bac ne sont pas si particuliers que ça. Alors, en ce qui concerne les lycéens à la BPI, Vous savez que la BPI reçoit massivement un public d'étudiants. D'après la dernière enquête de 2009, 65% des personnes interrogées déclarent être étudiantes. Dans nos filets, on a beaucoup moins d'étudiants aux périodes normales de fréquentation, en dehors justement de la proximité du baccalauréat. En gros, on a une moyenne de 3% en novembre, en tout cas, de lycéens qui déclarent fréquenter la BPI dans nos enquêtes de fréquentation générale. 6% en avril, puisqu'on avait réalisé un sondage également en avril. Donc on voit que la proportion double déjà. Nous n'avons pas jusqu'à maintenant réalisé l'enquête au mois de mai ou au mois de juin, une période de forte présence lycéenne, mais il y a toutes les raisons pour que ces proportions soient bien évidemment nettement supérieures. Ce qui nous a amené à nous intéresser à la fréquentation lycéenne, c'est une série de constats et, dans un premier temps, j'aurais tendance à dire, une série de constats plutôt problématiques. Il y a toujours eu des lycéens à la BPI toute l'année. Il y a toujours eu des lycéens qui sont venus réviser le bac à la BPI et dans la plupart des grands établissements, voire même des petits établissements. Ce n'est pas un phénomène qu'on découvre, il n'est pas radicalement nouveau. En revanche, le côté massif du phénomène, qui est très apparent pour nous depuis une petite dizaine d'années, en gros, et surtout l'aspect tout à fait collectif de cette fréquentation, des groupes d'étudiants, des grappes même de lycéens, est un petit peu nouveau, fait l'actualité, jusqu'à un certain nombre de débordements et d'incidents qui ont eu lieu, notamment à la BPI, au cours de l'année 2005 et 2007, où nous avons enregistré effectivement un changement d'atmosphère et d'ambiance au mois de juin notamment, avec des heurts entre lycéens qui pouvaient aller jusqu'à des bagarres, avec des heurts entre lycéens et autres publics de la BPI, notamment les étudiants, et bien évidemment avec des problèmes de friction plus ou moins élevés entre lycéens et personnel, entre lycéens et éventuellement agents de sécurité. En réponse à cet état de fait, à cette situation, et je vais vous décrire un petit peu par le menu la façon dont l'institution s'est emparée de la question et a commencé à y réagir, parce que justement, on va voir que c'est aussi facteur d'un certain nombre de choses en matière d'image qu'on envoie au public. Donc la BPI a tenté de prendre à bras le corps cette question, d'y réagir. Et d'ailleurs, le travail d'enquête qui a été réalisé par Agathe Zudas, donc la stagiaire en sociologie qui était venue dans notre service, découle aussi de ce principe, on va le voir. La BPI a tenté de mettre en place un dispositif. Alors, très rapidement, je vous livre les grandes lignes de ce dispositif. Donc, à partir de 2008, notamment pour les mois de mai et de juin, on a abaissé la jauge d'entrée de 200 personnes. Pour essayer de fluidifier un peu les choses et d'apaiser un petit peu l'atmosphère. Le nombre de bibliothécaires en bureau d'information a été renforcé afin d'intensifier leur présence sur le terrain et de permettre aussi un certain nombre de rondes de surveillance, puisqu'il était question de ça, occuper le terrain. Des documents de communication sous la forme de flyers ont été disposés à l'entrée de l'établissement et sur les tables de travail. Et enfin, une série de formations spécifiques destinées au personnel ont eu lieu, notamment pour travailler sur l'accueil des publics difficiles, entre guillemets, et des publics lycéens d'une manière générale. Donc vous voyez, c'est une première réaction qui portait plutôt, c'est l'analyse que je peux en faire, moi, en me mettant de l'extérieur, qui était plutôt orientée sur les conditions d'accès, l'encadrement, voire l'aspect répressif, plutôt qu'autre chose. Il serait très intéressant aujourd'hui de comparer les flyers que nous produisons aujourd'hui avec ceux qu'on a pu produire à l'époque, qui ressemblaient un petit peu au règlement très répressif dont parlait Anne-Marie Bertrand ce matin. Donc du coup, l'image qui était envoyée était assez particulière. Ce dispositif qui a eu un certain succès, puisque l'ambiance était meilleure que les années passées, a été reconduit en 2009 avec quelques petits aménagements. Il a notamment été prolongé d'une semaine. Le dépliant a évolué. On a commencé effectivement à travailler à la fois sur les devoirs, sur ce qu'il fallait respecter, mais sur les droits aussi, sur ce qu'on proposait notamment à ce public lycéen. En 2010, pour la première fois, une offre spécifique assez importante de documents était proposée, ce qui n'est pas une grande première à la BPI, mais qui qui contrevenait un petit peu avec les habitudes en la matière dans la bibliothèque, c'est-à-dire que des anabacs et des maxicours étaient mis à disposition de façon assez visible pour bien montrer qu'on prenait acte de cette fréquentation lycéenne et qu'on souhaitait aussi, sinon l'encadrer, en tout cas l'accompagner et effectuer un travail de médiation dans ce domaine. En 2011, le nombre de documents destinés à aider les lycéens dans leur révision pour le bac continue à augmenter. De nouveaux supports sont utilisés, notamment à l'espace auto-formation. Les bureaux d'information proposent aujourd'hui des sélections d'ouvrages qui sont mis en avant du coup, par les bibliothécaires en fonction de chaque discipline. Et grand changement pour la BPI. À ma connaissance, en tout cas, des conférences sont organisées dans les espaces mêmes de la bibliothèque pendant les heures d'ouverture, à certains moments de grande affluence, le mercredi après-midi à partir de 17h, pour des conférences BAC, de préparation au BAC, sur certains sujets spécifiques, la philosophie, l'économie, les sciences de la vie et de la terre et la géographie. Donc des conférences qui ont lieu in situ, au cœur de la bibliothèque, alors même que les lycéens sont en train de gratter aux tables de travail. L'enquête qualitative exploratoire réalisée par Agathe Zudas est prolongée aujourd'hui par une enquête quantitative par questionnaire auto-administré. Elle a lieu en ce moment même avec le service accueil des publics de la BPI et notamment les vacataires qui nous aident à faire passer ces petits formulaires. Je ne peux pas en tirer un certain nombre de conclusions dans la mesure où l'enquête est en cours et les résultats ne seront connus qu'au cours de l'été. Bon, ça rigole à côté. L'enquête, donc pour vous présenter rapidement la méthodologie du travail qualitatif qui a été réalisé par Agathe Zudas. Alors, je précise peut-être un certain nombre de choses quant à cette commande qu'on lui passait. Il était important pour nous que ce soit une jeune femme qui puisse réaliser ses prises de contact avec des lycéens sur le terrain. Ça nous paraissait plus difficile à nous, vieux grigous chargés d'études, qui font aussi parfois du service public et de la surveillance et de la répression sur le terrain de la bibliothèque, d'essayer d'établir un contact de confiance avec les lycéens pour les faire parler, les faire parler de leur rapport à l'institution, de leur rapport au personnel, de leur rapport au règlement intérieur et de ce genre de choses. Donc Agathe, pour le coup, avait un profil tout à fait intéressant puisqu'elle était jeune, elle n'était plus non plus lycéenne, mais elle pouvait avoir une forme de proximité que nous ne pouvions pas tout à fait nous permettre, pas de la même façon en tout cas. Donc elle a réalisé 9 séances d'observation longues in situ, c'est-à-dire qu'elle les a regardées vivre, bouger, elle a assisté à leurs interactions. Elle a également réalisé 14 entretiens semi-directifs assez approfondis avec des lycéens qui ont de 17 à 21 ans, puisque certains repiquent. On verra d'ailleurs que c'est intéressant dans les résultats de l'enquête. Il lui est arrivé également d'interviewer des étudiants qui étaient fraîchement étudiants, mais qui avaient été lycéens et autrefois occupants de la BPI pour réviser le bac. Donc elle a contacté en tout 8 hommes et 13 jeunes femmes, dont une grande majorité, c'est important, sont issus de l'immigration, ou en tout cas font partie des minorités visibles. Parce qu'on va voir que au moment de cette occupation et appropriation lycéenne des espaces de la BPI, il nous semble, on ne peut pas encore le vérifier puisqu'on n'a pas de données quantitatives, et qu'on ne se permet pas non plus, puisqu'on n'a pas le droit, malheureusement, de réaliser des statistiques qui portent justement sur les origines migratoires, sur la question des minorités visibles. On s'est bien aperçu qu'il y avait un enjeu. Là, les séances d'observation le montraient assez bien. Et nous avons réalisé également, ensemble, conjointement avec Agathe, un groupe de discussion, un focus group avec quelques lycéens, justement pour approfondir un certain nombre de choses qui étaient tirées des entretiens exploratoires. Alors, les résultats de l'enquête sur la question de l'image du rapport à la BPI, des bibliothèques d'une manière générale, et de la façon dont on les intègre donc à ce processus de révision. Je vais peut-être commencer par un certain nombre de choses qui sont tirées de ce groupe de discussion. Nous avons trouvé utile au départ de ce groupe de discussion, et je vous invite presque à le faire d'ailleurs avec vos publics jeunes, quels qu'ils soient, les enfants, les pré-ados, les ados, voire les grands adolescents ou les jeunes adultes, on leur a demandé pour commencer de réaliser un collage pour essayer de faire apparaître ce qui, pour eux, était représentatif de la BPI. Hein, quelle image ils avaient de la BPI, quelle image ils souhaitaient véhiculer de la BPI. Donc on leur avait donné tout un tas de magazines, hein, de tout, hein, de la presse magazine People, politique, scientifique, du magazine d'actualité traditionnelle, de tout. Et ils sont amusés à réaliser un collage collectif pour essayer de faire apparaître un certain nombre de représentations, hein, qu'ils arrivaient à partager ensemble. Alors, voilà. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de le scanner. Je ne suis pas certain d'ailleurs qu'il soit scannable. Alors, en soi, d'un point de vue esthétique, hein, ce n'est pas ce qu'il y a de plus réussi. Ce n'étaient pas des étudiants qui se destinaient à l'école Boulle ou à d'autres choses. Ce qui est intéressant, c'est le discours qu'ils ont pu tenir sur les choix d'images qu'ils avaient pu faire. Alors, en gros, on distingue trois registres que je pourrais approfondir à nouveau à la suite en analysant les entretiens. Le premier registre, c'est le registre de la pression, avec notamment des images de fumée, de vapeur. Donc une pression qui monte, hein, une pression qui est causée bien évidemment par la proximité de l'examen qui va avoir lieu et qui n'est pas n'importe quel examen. On reviendra là-dessus parce que c'est évidemment un rite de passage assez important et qui a des incidences très fortes sur leur existence et pas seulement leur existence scolaire. Hein, donc des notions de pression, de mise sous pression et du coup des gens qui sont à fleur de peau hein, puisqu'ils sont sous pression. Deuxième image qui revenait très régulièrement dans leur collage, c'était l'idée du travail, de l'investissement intellectuel et notamment dans les révisions, mais qui était souvent accompagné de « oui, mais » des temps de pause, bosser dans de bonnes conditions, bosser, mais pas que, ce qu'on nous a souvent dit. Donc je reviendrai là-dessus. Et troisième série d'images et de représentations, qui alors là était très fréquente, aussi bien portée par les garçons que par les filles, c'était l'idée d'être ensemble. C'était aussi l'idée d'une mise en scène de soi, hein, jusqu'à la question du look. Il y a notamment un slogan qui était tiré d'un magazine qui était « les plus beaux looks sont venus parader », par exemple, hein, avec des images très, très branchées, très, très, très in. Et puis aussi parfois des oppositions entre eux et nous. Alors là, vous avez les Jackson 5, je pense que vous ne les connaissez pas très bien d'aussi loin, avec Michael Jackson au centre, hein, qui a le même avocat que vous savez. En dessous, vous avez des jeunes gens, alors là, beaucoup plus bon chic, bon genre, et l'opposition qui était mise en scène entre eux et nous, c'était texto tel que ça nous l'a été dit et confirmé en entretien, en gros, les blancs, sous-entendu les jeunes bourgeois parisiens qui sont issus, jeunes lycéens bourgeois parisiens qui sont issus des lycées de l'élite, et nous, qui venons de banlieue, hein, qui n'avons pas les mêmes codes, le même langage, ni les mêmes codes vestimentaires, hein, avec un côté beaucoup plus bling-bling, tel que ça nous l'a été dit également. Voilà, donc, bling-bling, oui. Ah, oui. Tape à l'œil, en tout cas, très... voilà. Et à la fois visuel et auditif aussi, hein, dans le langage notamment, et les expressions. D'ailleurs, le compte-rendu du groupe de discussion est très fleuri, hein, c'est vraiment... c'est assez intéressant. D'autant qu'on les incitait à parler et qu'ils se sont à certains moments assez lâchés. J'y reviendrai. Alors, les toutes premières images qui sortent des entretiens qualitatifs, elles portent notamment sur la question, et on insistait sur cette question, ça faisait partie du guide d'entretien, puisqu'on a beaucoup travaillé avec Agathe, donc tous les membres du service d'ailleurs s'y sont mis hein, pour essayer de faire en sorte qu'elle les relance sur certaines thématiques. Elles portaient sur la question de la première impression. Quelles sont vos premières impressions quand vous découvrez le centre, d'abord, pour commencer, puis la BPI. Parce que pour beaucoup, et ça c'est très intéressant bien évidemment, et c'est quelque chose qui est difficilement reproductible, comment on a l'idée de fréquenter la BPI, c'est d'abord et avant tout le bouche à oreille. C'est pas les documents officiels, c'est pas les visites à la limite avec les établissements scolaires, certainement pas les parents. Parce que les parents parfois incitaient, mais ce n'est pas ce moteur-là qui va être décisif, c'est le fait que les autres y aillent. avec plein de lycéens qui disaient, mais enfin, c'est simple, tout le monde y allait. Et donc, il fallait y aller pour réviser, pour bien réviser. C'était la BPI ou telle autre bibliothèque, d'ailleurs. Et c'était aussi l'exemple, parfois, des cousins, cousines, grands frères, grandes sœurs. Alors, avec parfois un étonnement, une forme de naïveté quand ils découvrent la BPI. Hein. Une jeune femme, notamment, Soumaya, qui dit « Enfin, à première vue, c'est un peu choquant, je trouve. On a l'impression que c'est pas fini, que c'est un chantier. » Peut-être pas complètement tort, d'ailleurs. Hein. Un autre qui dit « Je savais même pas que c'était une bibliothèque. » Parce qu'au début, mon cousin, il disait que c'est un peu Charlie et la chocolaterie. Ça, c'est très vrai. Hein. C'est que les trucs, là, je disais, c'est pas une bibliothèque, ça. Après, il me dit que si. Enfin, bon. Il a cru que c'était Charlie et la chocolaterie. Je me dis que non, ça doit être un musée ou un truc comme ça. Je sais pas. Et enfin, pour terminer, une troisième citation qui est révélatrice aussi d'une forme de méconnaissance et du coup, de tout un processus d'acclimatation et de familiarisation qui doit avoir lieu, mais qui n'est pas si évident. Parce que ça n'est pas gagné. Une jeune femme qui dit, enfin, non, c'est encore Soumaya. L'escalator et tout, je ne pensais pas. Je ne pensais pas que c'était autre chose, sous-entendu, qui conduise à autre chose. Quand elle arrivait à l'entrée, ce qu'on appelle, nous, le niveau 1, la mezzanine, qui est très cryptée pour eux. Parce que déjà, quand ils sont au premier étage, on leur dit c'est le niveau 2. Ça ne peut pas passer. L'escalator et tout, je ne pensais pas. Je pensais que c'était autre chose. Parce que quand je suis rentré, j'ai vu des tables, un espace. Je ne pensais pas qu'il fallait passer par l'espace pour que là-bas, il y allait y avoir encore plus de tables et tout, sous-entendu au-dessus. Je ne pensais pas que l'escalator, c'était des étages pour la bibliothèque, toujours. Je me suis dit que si ça se trouve, c'est un centre commercial, c'est autre chose, quoi. Et donc, pour elle, la bibliothèque, c'était les 200 mètres carrés de la mezzanine et elle faisait l'impasse sur les 9800 mètres carrés qui étaient juste au-dessus de sa tête. Et du coup, elle s'installait en mezzanine, et petit à petit, alors que le temps avançait, elle a pris ses marques et elle a pu changer d'étage. Ce qu'on trouve d'ailleurs dans les témoignages de certains qui sont redoublants, voire triplants, hein, et qui finissent au troisième niveau de la BPI. Parce qu'ils se rendent compte, en plus, que c'est le niveau le plus calme. Et ils finissent d'ailleurs bien souvent cela. Bien souvent, c'est difficile parce que je n'ai pas de statistiques, mais en tout cas, ça a été repéré à plusieurs reprises. Ils finissent par venir seuls ou à deux, alors qu'ils ont commencé les années précédentes à venir à 6, 7, 8 même parfois dans certains cas. Dernier point en termes de première image et d'impression que je trouve assez intéressant, c'est la question de la file d'attente. Aussi insupportable pour eux que pour l'ensemble des publics de la BPI, notamment les publics non étudiants. Avec un petit plus, c'est qu'ils disaient, s'il y a autant de gens qui attendent comme ça le dimanche à l'entrée de cette bibliothèque, c'est que ça doit vraiment être quelque chose. C'est-à-dire que, pour le coup, là, la file d'attente apparaît comme un succès en termes de communication. Je ne sais pas quel marketing on pourrait adapter à ça, mais il se passe quelque chose. Alors, très vite, sur les motifs de fréquentation. Le premier motif, vous l'avez compris, c'est qu'ils ont un moteur, hein, ils ont une fusée au derrière, c'est qu'il faut passer l'obstacle du baccalauréat et, autant que faire se peut, quitter ce statut de lycéen, quitter le lycée pour accéder à autre chose. Dans l'idéal, donc, les études supérieures, des écoles prépa, des universités ou d'autres filières de formation encore. C'est un atout énorme, pour eux comme pour nous, par certains côtés, parce que sans ce moteur, sans cette pression, je pense qu'il ne serait pas question de les voir à la BPI telle qu'aujourd'hui la BPI est organisée et renvoie une image. Ça ne veut pas dire, bien évidemment, hein, si vous suivez mon raisonnement, qu'ils apprécient les bibliothèques. Hein, ça ne veut pas dire qu'ils ont, à la base, un engouement pour les bibliothèques. Beaucoup, d'ailleurs, diront oui, « les bibliothèques, c'est pour les gens qui aiment la littérature. Hein. » Quand on leur dit « mais c'est pour vous, les bibliothèques. » Non, les bibliothèques, c'est pour les gens qui aiment les livres, qui aiment la littérature. Nous, beaucoup disaient, on ne lit pas. Simplement, là, ils ont une pression énorme. En gros, c'est un peu... la bibliothèque, pour eux, c'est un peu comme l'hôpital, quoi. Quand vous êtes malade, vous allez à l'hôpital. Là, ils sont gravement malades. Parce qu'ils n'ont pas de code, ils n'ont pas d'habitude de travail. Très souvent, d'ailleurs, dans les entretiens, ils disaient, mais moi, je suis un bon à rien à l'école. Hein, je ne suis pas un bon élève. Trop souvent, d'ailleurs, ils le disaient, au point qu'on finissait par être un petit peu alerté. Et du coup, on a beaucoup questionné Agathe là-dessus. C'est-à-dire, quand on vient en bibliothèque pour passer plusieurs heures, parfois le samedi et le dimanche, toute la journée, pour réviser le baccalauréat, moi, je trouve qu'on est, au contraire, on s'inscrit dans, peut-être pas dans une filière d'excellence, mais en tout cas dans une image de bon élève. Non, eux disaient, on est en gros des bouffons. Hein, on a bouffonné toute l'année, on est limite au niveau des résultats. Ce que vous trouvez dans toutes les enquêtes, d'ailleurs, de François Dubé ou de Bernard Charlot sur l'inversion des codes scolaires, hein, où il s'agit justement de plus faire partie de l'image du bon élève. Hein, il faut plutôt être parmi les bouffons de la classe. Voilà. Mais il faut jouer avec les codes parce qu'il faut quand même surnager. Et puis à un moment, il faut finir quand même par passer cette étape décisive. Et du coup, là, il faut faire quelque chose. Faire quelque chose, c'est aller à la bibliothèque pour certains et pour beaucoup, en tout cas en région parisienne, notamment quand on vient de banlieue, c'est venir à la BPI. Voilà. Donc il y a une inquiétude qui est très forte de ce point de vue-là. Ils viennent rechercher ici du calme. Ce qui peut nous étonner dans un premier temps, parce que pour nous, ça a souvent été au contraire des facteurs de trouble et d'agitation et de bruit. Je reviendrai là-dessus. Ils viennent chercher bien évidemment une ambiance studieuse, hein, une sociabilité studieuse. D'autres lycéens sont là pour réviser le bac, d'autres parfois du même lycée, hein, ou de la même ville, alors même qu'on n'est pas venus ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui va pouvoir beaucoup les aider. En gros, ils sont en recherche d'un espace adapté, qui soit à la fois adapté au plan des conditions matérielles, accès facile, horaire très étendu, notamment le soir, notamment le week-end, le dimanche. On vous fiche la paix, on vous laisse vous installer où vous le souhaitez, et ainsi de suite. Mais l'espace est aussi adapté, et ça c'est très important, en tout cas il nous semble, en termes symboliques. Qu'est-ce que je mets là-dessous? Le fait que, pour eux, ça participe d'une sorte de rite de passage. Alors le bac est un rite d'institution, dans la mesure où y a ceux qui vont l'avoir et ceux qui ne l'auront pas. Et il y a même ceux qui le passent et ceux qui ne le passent pas aussi. Donc c'est un rite d'institution, hein, vraiment un rite qui consacre des individus plutôt que d'autres et qui a un aspect parfois assez décisif pour l'existence. La fréquentation de la bibliothèque dans un haut lieu comme la BPI du Centre Pompidou, hein, tel qu'ils la décrivent, grand, gigantesque, ça revient souvent dans les entretiens. On est entré, on a trouvé ça géant. Il y a vraiment une forme d'écrasement aussi par rapport à leur taille symbolique, par certains côtés. La fréquentation de la bibliothèque, c'est un rite de passage. On s'arrache au quartier, on s'arrache au lycée, pour commencer. Hein, pas question d'aller réviser au CDI, vous imaginez, avec les classes de seconde et les classes de première, alors qu'on est en terminale et qu'on est dans la voie royale vers les études supérieures. Non, il faut autre chose. Il faut un autre espace chargé symboliquement, un autre lieu. Et ça peut être donc la bibliothèque. La bibliothèque qui va permettre, hein, si vous suivez la temporalité tripartite des rites de passage, hein, vous avez donc première phase d'arrachement à soi, à sa condition, hein, vous êtes arraché à votre communauté d'origine, c'est une phase de rupture. Vous avez une phase de réclusion, hein, c'est l'installation justement là dans cette phase de révision, au sein d'un établissement culturel. Et dans le meilleur des cas, vous avez une phase d'affiliation, hein, d'insertion dans autre chose, un autre état, un autre stade, hein, puisque vous deviendrez, si vous obtenez le baccalauréat, étudiant, hein, en ayant d'autres barrières à franchir. Et du coup, la fréquentation de la bibliothèque, on le sent bien dans les entretiens, elle permet aussi ce grandissement de soi. Hein, on n'est plus au collège, plus du tout, on n'est plus parmi les petites classes du lycée. On utilise aussi la bibliothèque pour être au contact avec une communauté savante, laborieuse, avec les étudiants. Et cette fréquentation, elle rejaillit beaucoup sur leur personne et leur personnalité. On a beaucoup, beaucoup d'images de ce domaine dans les entretiens. Alors, je vais conclure en reprenant un certain nombre de points que j'ai déjà évoqués, mais surtout en essayant de tirer des lignes, hein, d'une part pour essayer de voir ce qui se joue, hein, dans ce moment particulier de fréquentation lycéenne d'une grande bibliothèque pour réviser le baccalauréat, mais peut-être aussi pour essayer de voir comment on pourrait travailler sur l'image que donnent les bibliothèques par rapport à ces modalités spécifiques d'usage. Parce que si vous m'avez bien suivi, je ne l'ai pas dit, mais c'est implicite, c'est en filigrane dans mon intervention, ils viennent pour travailler sur place sur leurs propres documents. Ce qui sous-entend qu'une grande majorité d'entre eux ne va pas utiliser les ressources, les collections que la BPI met à leur disposition, quelles que soient ces ressources et ces collections. Les ANABAC, ça a marché. On se rend compte qu'il y a même eu un succès assez, assez important, mais pas pour tous. Certainement pas pour tous. L'essentiel, c'est le travail qui est fait sur les petites fiches Bristol, sur les notes de cours, et ainsi de suite. Avec notamment des extraits d'entretien, et là, je me dis qu'il faudrait bien évidemment, et je trouve que les conférences Objectif Bac sont très intéressantes pour ça, avec parfois un discours aussi très, très, comment dire, très, très inquiet, très en doute, sur ce que les collections même de la BPI, les ressources même de la BPI, pourraient leur apporter à eux, lycéens, alors qu'on a tout ce qu'il faut, bien évidemment, à la BPI. Avec des lycéens qui craignent même, parfois, en allant ouvrir un livre de maths ou un livre d'histoire ou un livre de SVT sur le programme sur lequel ils ont travaillé, d'avoir un point de vue différent de celui que leur prof a essayé de leur faire passer. Et là, du coup, de se retrouver dans une situation... Oh là là, lui, il me dit gris clair, lui, il me dit gris foncé. Qu'est-ce que je fais, là? Où je vais? Qu'est-ce que je prends? Et qu'est-ce que j'utilise le jour du bac? Donc, pas mal de témoignages qui disaient non, on n'ouvre pas la boîte de Pandore, trop risqué. Donc, ce que je trouvais quand même assez, assez intéressant. Sur la question, alors je terminerai sur la question du lieu de retraite, hein, puisque je me suis amusé à mettre ça dans mon titre, et j'allais même jusqu'à... Je me demandais voilà, si ce n'était pas de cet ordre-là, puisqu'on a eu une discussion avec Françoise Godet sur la question, où on se demandait si ce n'était pas le retour d'une forme d'ascétisme judéo-chrétien hein, qui consistait à se cloîtrer. Bon, ce n'est pas ça. Ce n'est clairement pas ça. Donc, passons là-dessus. L'autre point que je voudrais souligner, et qui, moi, en tant que sociologue, me paraît assez intéressant, parce qu'il y a pas mal de grains à moudre là-dessus, c'est que on dit souvent à juste titre qu'il s'agit d'une génération, et c'est positif, hein, c'est pas négatif, c'est pas un jugement de valeur, il s'agit d'une génération désencadrée. Désencadrée parce que les cadres traditionnels de l'autorité hein, et de la relation autoritaire ne s'imposent plus de la même façon auprès des jeunes générations. Pas seulement les jeunes gens dont on parlait ce matin dans la communication de Denis Merklen, hein, dans les cités, dans les quartiers, voire dans des zones sociales reléguées. Non, c'est l'ensemble de cette génération qui est concernée par le désencadrement. Hein, désencadrement des manières de travail, désencadrement des goûts et des pratiques culturelles, et bien évidemment de l'engagement dans le travail scolaire. Et cette génération désencadrée qui, par certains côtés d'ailleurs, ça c'est la butée caricaturale du phénomène, est présentée comme une horde de barbares qui s'emparent, ou pas d'ailleurs, des établissements culturels qui n'ont pas les codes et ainsi de suite. Moi, ce qui me paraît intéressant, c'est que dans leurs entretiens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils viennent chercher un cadre à la BPI. Ils viennent chercher une structure signifiante, normée, normative. Et quand on se dit, on va tout dévisser, tout déverrouiller, discours que j'ai tenu, moi, parfois, en tant que sociologue, où je disais qu'il fallait débureaucratiser les bibliothèques, qu'il fallait les désinstitutionnaliser. Je continue à tenir ce discours, mais je pense pas qu'il faut faire sauter tous les boulons, hein, puisque là, ils cherchent un cadre. Et parfois, ils sont les premiers aussi à réclamer le calme et le silence, parce qu'ils ont besoin aussi de ça, à ce moment-là, en tout cas, pour travailler. Quitte à prendre beaucoup de liberté, à d'autres moments, dès qu'eux-mêmes ont fini de travailler, hein, et ça, on le voyait très bien dans les séances d'observation, ça vous fait rire parce que vous voyez bien de quoi il retourne, vous l'avez vécu. Agathe l'observait bien, mais tous les collègues qui font du service public le voient. Dès qu'ils ont fini de travailler, qu'ils ont rangé les cahiers, ça papote, ça joue, ça s'envoie des boulettes, ça se donne des claques, ça se fiche de la tronche de celui qui continue à gratter juste à côté de soi, alors que deux minutes avant, on faisait la même chose. Donc, désencadré, ouais, là, on le sent aussi, mais en recherche de cadres. Donc, continuons à leur proposer des cadres signifiants. Ça c'est une image inversée qui me paraît très intéressante. C'est-à-dire que quand on a eu des rejets épidermiques à certains moments de cette appropriation lycéenne des espaces de la BPI au mois de juin, et ça commence au mois de mai, un petit peu aussi au mois d'avril, hein, en étant persuadé de recevoir les troupes de Attila le Hun qui se sont trompés d'échangeurs et qui investissent une prairie sur laquelle ils n'ont rien à faire. C'est faux, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'eux, en retour, ils disent ouais, c'est bien ici, ça colle bien. Bah oui, il y a un règlement, bah oui, il faut un règlement parce que sinon on fait n'importe quoi. Bon, ils vont critiquer le règlement aussi, hein. C'est-à-dire quand ça va trop loin, notamment sur certaines choses qu'ils ne comprennent pas du tout, le fait qu'on leur interdise de téléphoner, de boire des boissons renversantes et collantes, hein, d'utiliser des canettes, ça, ils ne comprennent pas, effectivement. Hein. Mais au fond des choses, ça ne leur paraît pas insupportable qu'il y ait un règlement. Il y a manière et manière de le faire appliquer. Voilà. Et là, on sent qu'ils sont beaucoup plus dans la négociation, dans le contractuel, plutôt que dans la relation statutaire, autoritaire. C'est-à-dire que, très clairement, il ne suffit pas de dire « mais enfin, vous êtes dans une bibliothèque ici ». Ça, c'est un message qui ne passe pas du tout. Ça ne veut rien dire, quasiment rien dire. Voilà. Dernier point que je voudrais signaler, c'est aussi ce qui ressort de certains entretiens, et notamment justement pour ceux qui appartiennent aux minorités visibles dont je parlais tout à l'heure. Et là, je me dis qu'on a aussi peut-être un travail spécifique à faire dans ce domaine. Je me le dis d'autant plus après avoir réécouté Denis Merclin au cours de la matinée. C'est le besoin de reconnaissance et de respect dont ils font état. Alors bien évidemment, je suis d'accord, c'est hyper sensible, ça va parfois beaucoup trop loin. Hein, c'est effectivement, ah mais vous me dites à moi de me taire parce que je suis arabe, hein, à moi vous me dites d'éteindre mon portable parce que je suis noir, mais lui à côté qui a parlé juste avant moi, voilà. Donc on se retrouve tout de suite dans une forme de polémique qui est assez délicate, mais qui renvoie quand même à bien évidemment, une intériorisation, hein, d'un certain nombre de, faut le dire, hein, clairement, hein, d'injustices, hein, vécues sur d'autres terrains, et notamment sur le terrain scolaire. Et pour le coup, notre aspect très généreux, hein, en termes d'offre d'espace public, hein, d'accueil de tout le monde, sans distinction, ne suffit pas. Ça paraît tout à fait évident. Tout dernier point, sur l'image du personnel. On avait vu dans l'enquête, je sais qu'une partie d'entre vous avait assisté à la présentation des résultats sur l'enquête sur les 11-18 ans et les bibliothèques municipales. On avait vu que l'image du personnel était parfois assez datée, assez poussiéreuse, hein, décalée d'une forme de réalité concrète, ou pas, dans certains cas. Là, on a aussi, en termes d'interaction avec le personnel, une distance culturelle qui est très claire. C'est-à-dire, en gros, il laisse entendre en filigrane que les bibliothécaires, ou il les appelle même parfois les documentalistes, ne sont pas là pour eux. Voilà, ils sont là pour faire respecter l'ordre, l'unité et l'intégrité des documents et des ressources, mais pas pour les aider, les accompagner. Donc on sent que là, il y a encore beaucoup de chemin à faire dans ce domaine. Je m'arrête là.